Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 9h, ce journal vous est présenté par Arnaud Van Krombrug.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans l'actualité ce matin, grand jour des soldes, aujourd'hui c'est le Black Friday, l'occasion de revenir plus en détail sur les origines de cette frénésie d'achat liée au rabais des prix. Cyberviolence et cybersécurité, le service des affaires étudiantes de l'Université de Liège proposait ce mardi une sensibilisation à cette problématique, rencontre avec Océane Genji, criminologue. Journée internationale des professeurs de français, l'occasion de partir à la rencontre d'une étudiante romaniste qui suit le master en didactique. Ouverture du village de Noël de Liège, des nouveautés pour cette 36e édition qui doit jongler avec les travaux du tram. Dans l'effervescence de la saison des fêtes, le monde du commerce organise aujourd'hui son événement annuel du Black Friday. Des offres incroyables, des réductions à couper le souffle et des bonnes affaires à saisir. Si cette braderie grandeur nature permet de réaliser de fameuses économies, ses origines restent, elles, plus méconnues, Marine.
En effet, Arnaud, plusieurs théories existent. La première consiste à dire que le Black Friday, littéralement vendredi noir, tire ses origines des années 1950 à Philadelphie, aux États-Unis. Le terme désignerait l'ennui pour les patrons de voir tous leurs employés tomber malades le vendredi pour faire le pont entre Thanksgiving et le week-end. La seconde théorie est celle de la police pennsylvanienne. Elle utilisait apparemment le terme de Black Friday pour décrire le chaos et la congestion routière provoquée par l'afflux massif des personnes dans les rues et les magasins le lendemain de Thanksgiving. La dernière théorie, moins documentée, parle des commerçants qui proposaient des soldes incroyables pour augmenter leurs gains un peu faiblards avant la période de Noël. Au lieu d'écrire leurs chiffres à l'encre rouge, synonyme de perte, ils notaient leur compte à l'encre noire le vendredi après Thanksgiving, signifiant qu'ils étaient enfin rentables. Quelle que soit l'histoire exacte derrière le terme Black Friday, il est clair que cette journée a pris une place indéniable dans nos calendriers et nos habitudes de consommation.
Merci Marine. Pour ceux qui sont dans l'incapacité de réaliser leurs achats aujourd'hui, pas de panique, beaucoup de commerçants jouent les prolongations. Ils étendent le Black Friday jusqu'au lundi 27 novembre, jour du Cyber Monday. Revenge porn, cyberharcèlement, dick pic, doxing, de nombreux comportements transgressifs ont lieu au sein du numérique. Il n'est pas rare d'en être témoin, victime ou auteur. Il arrive même de revêtir plusieurs rôles à la fois. Peu importe notre genre, notre origine culturelle ou notre orientation sexuelle, nous avons tous vécu au moins une expérience de violence en ligne. Océane Genji, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes criminologue et assistante à la faculté de droit, sciences politiques et criminologie. Les jeunes sont victimes de cyberviolence, mais également acteurs. Quels sont les types de violences? Y a-t-il une forme d'agression qui ressort le plus parmi les recensés? Le revenge porn, le cyberharcèlement, le dick pic?
Alors, tout d'abord, si on fait un petit focus sur la définition de cyberviolence, pour moi et pour de nombreux chercheurs, une cyberviolence, c'est finalement l'utilisation du numérique pour commettre une violence. Donc, comme c'est une définition très large, on peut à la fois voir des cyberviolences d'ordre uniquement financier, comme le spamming, le hacking, que tout le monde connaît, et puis des cyberviolences d'ordre plus interpersonnel, comme le trolling, le cyberharcèlement, au niveau des prévalences, alors il y a très peu d'études sur le sujet. Moi, j'ai participé à une recherche pour les jeunes de 15 à 25 ans, ce qui nous intéresse quand même pas mal ici. Et par exemple, au niveau du partage non consenti d'images intimes, donc c'est un peu comme le revenge porn, mais pas forcément avec une motivation de vengeance, on est à un jeune sur trois aurait déjà été auteur, aurait déjà partagé une image intime de quelqu'un d'autre sans que la personne soit consentante. Et un jeune sur quatre aurait été victime. Donc évidemment, ce sont des chiffres très importants.
Et justement, donc, en parlant des jeunes, quelles sont les actions qui peuvent être prises à leur niveau pour les sensibiliser et pour lutter contre ces violences?
Alors, évidemment, il y a plusieurs choses. Ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'il faut déjà connaître les conséquences sur les victimes, parce qu'il y a beaucoup de comportements qui ne sont pas réalisés dans un objectif de nuire forcément aux jeunes qui est devant nous. Parfois, c'est juste pour un effet de groupe, se sentir bien dans son groupe, se sentir valorisé, ou pour avoir l'impression d'être soi-même, ne pas pouvoir être victime parce que nous-mêmes, on est auteur. Et donc, on a, par exemple, dans le partage d'images, des filles ou des garçons qui vont envoyer les nudes de quelqu'un d'autre dans l'espoir que ses propres nudes ne soient pas partagées, parce que quand on fait partie de la meute, on ne fait pas partie du coup de la victime. Peut-être que ce qui est important à signaler, c'est qu'il y a des services qui existent et qui permettent finalement, par exemple, de supprimer les images intimes qui circulent sur Internet. Je pense notamment au formulaire de signalement sur le site de Child Focus, si on est mineur, et sur le site de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, s'il y a une image de soi qui circule et qu'on veut supprimer, on peut contacter ces associations afin qu'ils puissent essayer de supprimer les images dans certains réseaux sociaux. Évidemment, des réseaux sociaux comme WhatsApp et Telegram n'acceptent pas ce genre de collaboration, mais au moins, on sait que ça existe.
D'accord, donc là, nous avons des exemples d'outils. Et au niveau pénal, pour punir les cas de cyberviolence en Belgique, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'attirail judiciaire?
Alors, évidemment, première chose à dire, c'est qu'il y a très peu de personnes qui portent plainte pour ce type de comportement. Donc, on appelle ça le chiffre noir. Il y a un chiffre noir très important, car il y a très peu de dépôts de plainte. Mais évidemment, si on dépose plainte, il y a des articles qui permettent de réprimer certains comportements. Alors évidemment, comme le cyberviolence est large, on peut penser à l'article sur le cyberharcèlement. On peut penser à un article qui est précisément centralisé sur la diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel, donc qui pourrait réprimer le revenge porn. Et il y a des sanctions qui vont jusqu'à une peine d'emprisonnement. Donc c'est pas du tout des points qui sont risibles. On peut aussi sanctionner, par exemple, l'envoi de dick pic par des comportements qui ne sont pas réservés à l'envoi de dick pic, mais qui peuvent être l'incitation à la débauche d'un mineur. On pourrait aussi prendre l'article du cyberharcèlement si la dick pic est envoyée avec un objectif de nuire. On peut penser à l'exhibitionnisme. Bref, il y a pas mal d'articles qui existent, soit spécifiquement pour prendre en compte la spécificité du numérique ou des autres types de comportements qui peuvent être utilisés. Donc, si on veut déposer plainte, il ne faut pas croire qu'il n'existe pas d'article en lien avec ces comportements, bien que certains comportements soient assez nouveaux.
Voilà, donc des mesures et des moyens pour lutter contre ces violences. Merci beaucoup, Océane Guenji. À noter qu'il existe un numéro d'appel gratuit et anonyme pour les enfants victimes de cyberharcèlement, le 103, qui leur est accessible de 10h à minuit tous les jours.
Il est 9h08, vous écoutez toujours 48FM.
Garance Hugo fait le point sur l'actualité en bref. Nous vous l'annoncions hier, la trêve entre Israël et le Hamas a bien débuté ce vendredi à 7h, heure locale.
Une trêve renouvelable de 4 jours au cours de laquelle des otages devraient être libérés. 50 Israéliens en échange de 150 Palestiniens. Cet après-midi, 13 personnes, des femmes et des enfants israéliens, seront les premiers relâchés, a annoncé hier le Qatar. Qatar qui, pour rappel, joue le rôle de médiateur dans cette guerre.
En province du Hainaut, 85 tombes situées dans le carré israélite du cimetière de Marcinelle ont été profanées.
Le cimetière déplore le vol des étoiles de David qui ornaient les tombes. Un acte manifestement à caractère antisémite condamné par la ville de Charleroi qui a décidé de porter plainte auprès de la police.
Les syndicats de Bruxelles Airlines ont demandé au personnel de cabine de faire grève le week-end du 1er, 2 et 3 décembre.
Effectivement, selon nos confrères de la RTBF, les syndicats dénoncent le non-respect de plusieurs conventions collectives de travail. Le secrétaire permanent de la CNE, la Centrale Nationale des Employés, prévient qu'il s'agit là d'une première salve en guise d'avertissement. Il demande à la compagnie de revenir à la table des négociations avec des propositions, je cite, « plus sérieuses que la simple rencontre de ce jour ».
Et enfin, le Sénat doit se prononcer ce vendredi matin sur l'inscription du bien-être animal dans la Constitution belge.
Oui, il s'agit de compléter l'article 7 bis comme suit, je cite, « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles ». Fin de citation. La modification avait déjà été votée à l'unanimité en commission au Sénat. L'issue du vote en plénière laisse donc peu de place au doute.
C'est la journée internationale des professeurs de français. Lancée en 2019 par Emmanuel Macron, l'initiative vise à mettre à l'honneur les enseignants de la langue de Molière partout dans le monde. Une belle façon de promouvoir également la France et la francophonie. Pour cette 5e édition, Zoom sur le master en langue et littérature romane à finalité didactique de l'Université de Liège-Garance.
Plus d'une trentaine d'étudiants suivent cette année la formation, toute année confondue. Un chiffre somme toute bas qui témoigne du peu d'attrait pour la profession. L'enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles souffre en effet d'une pénurie de professeurs, pénurie aggravée par le taux élevé d'abandon chez les jeunes enseignants. En 2013, une étude de l'UCL montrait que près de 35,6% des jeunes profs, toutes disciplines confondues, abandonnaient le navire dans les
5 premières années de leur carrière, des chiffres constants depuis lors et qui peuvent d'emblée décourager.
Alors, qu'est-ce qui motive les jeunes à se diriger vers cette profession ?
Pour Camille Lambier, 22 ans, étudiante de deuxième master, si l'enseignement n'était au départ pas une vocation, mais une sécurité professionnelle, l'expérience des stages l'a confortée dans son choix de carrière.
Pour moi, la matière français à l'école, c'est pas seulement la langue du français, mais c'est aussi une ouverture culturelle. Donc on va voir des pièces de théâtre, des expositions, on va parler d'art, de musique, etc. Donc en soi, pour moi, le cours de français, il offre une vision du monde. Et donc le choix de donner cours de français, c'est pouvoir communiquer la vision du monde dans lequel on veut vivre.
Une ouverture à la culture essentielle donc pour Camille et complémentaire de l'apprentissage de compétences élémentaires telles que l'écriture et la lecture.
Faire l'exercice de réfléchir à comment on va présenter les choses, pour moi, c'est utile dans plein de situations concrètes de la vie et on n'a pas toujours ChatGPT sur soi pour pouvoir produire le texte à notre place. Et la lecture, c'est un exercice dans tout autre ordre, ça va stimuler l'imagination, la représentation mentale, etc. Et les capacités de compréhension. Et donc pour moi, tout ça, ça doit aussi s'apprendre dans le cadre d'un cours de français.
Et ces professeurs sont d'autant plus importants quand on sait que le français est considéré comme la 5e langue la plus utilisée à l'échelle mondiale, l'anglais occupant de son côté la première place. À l'approche des fêtes, la magie de Noël s'installe dans les rues de Liège. Cependant, cette année, la Cité Ardente et son village de Noël doivent jongler avec deux réalités contrastées. D'un côté, la tradition festive avec son lot de nouveautés. De l'autre, les inévitables perturbations causées par les travaux du tram. Nous sommes partis à la rencontre de ces exposants, plongeant dans les coulisses de cette dualité où la magie se mêle aux défis du quotidien. Un reportage de Dorine Donati.
L'ambiance est conviviale. Sur la place Saint-Lambert, les artisans installent leurs chalets et les liégeois s'impatientent. À quelques heures du lancement du village de Noël, la magie s'installe progressivement. Même si les complications ont désormais fait place à l'enthousiasme, de nombreux défis ont dû être surmontés. Justine Carnec, organisatrice du village côté Saint-Lambert et Opéra.
Sur notre zone, Saint-Lambert, ça a été un véritable défi. Il a fallu faire beaucoup de plans, beaucoup les rectifier parce que 80 chalets, il faut les approvisionner. Et donc c'est autant de véhicules qui devaient arriver sur l'espace Saint-Lambert. On a dû utiliser une partie des voies qui étaient en parallèle toujours occupées par les ouvriers du chantier du tram.
Malgré les obstacles rencontrés, plusieurs nouveautés sont à prévoir.
Côté opéra, on va avoir toute une belle esplanade piétonne et donc il y aura là le manège, le carrousel rêve d'enfant, une animation familiale pour les bougies et le tout sera illuminé par un plafond lumineux finalement très similaire à celui qu'on peut retrouver sur la dalle Saint-Lambert. Une belle entrée bien féerique pour le village de Noël.
Pour plus de féerie, rendez-vous le 9 décembre sur la dalle Saint-Lambert. Au programme, petit déjeuner et rencontres littéraires autour de l'imaginaire.
Il sera possible de profiter du village de Noël de Liège et de ses chalets gastronomiques jusqu'au 30 décembre, place Saint-Lambert, et jusqu'au 7 janvier, place Cathédrale. Passons sans plus attendre à la page sport avec toi Marine. La ville de Bruxelles envisage de déposer plainte contre les ex-responsables de la pelouse du stade Roi-Baudouin.
C'est ce qu'a fait savoir le cabinet de l'échevin des sports Benoît Hellings à l'agence Belga. Pour rappel, le match Belgique-Serbie du 14 novembre n'avait pas pu se disputer au stade national en raison d'un terrain détrempé. Selon le cabinet, des pratiques et des éléments suspects auraient été mis en évidence, rendant deux ex-prestataires responsables de la mauvaise qualité de la pelouse.
Ce week-end marque d'ailleurs la fin de la trêve internationale avec la reprise de nos championnats belges de football.
En division 1, le Standard recevra Genk ce samedi à 20h45 avec un light show d'exception en avant-match pour célébrer les 125 ans du club. Du côté de la Challenger Pro League, le RFC Liège se déplacera au Berscott tandis que le RFC Sera affrontera l'équipe réserve de Genk.
Merci Marine.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même heure, même fréquence. Bon week-end à tous sur 48FM.